podcast de Radio Vatican.
Il y a 50 ans, lors d'une visite officielle au Canada, le 24 juillet 1967, le général de Gaulle prononçait un discours enflammé du haut du balcon de la mairie de Montréal, ponctué de l'apostrophe restée dans les annales « Vive le Québec libre ». Il déclencha alors la liesse des foules francophones venues l'entendre sur place, mais aussi la colère des autorités anglophones du pays qui le voyaient là encourager les séparatistes québécois. Alors que le mouvement nationaliste du Québec retrouvait du souffle pour mieux s'organiser, une grave crise diplomatique était déclenchée entre la France et le Canada, voire le monde anglophone. Le général de Gaulle fut même contraint d'écourter de 3 jours sa visite officielle au Canada. 50 ans après, une série d'événements commémoratifs ont été organisés, dont une exposition d'une durée d'une semaine consacrée au général à l'hôtel de ville de Montréal. Mais le maire de la ville a toutefois interdit la société Saint-Jean-Baptiste d'accéder au balcon de la mairie. Ancien député et ancien président de ce groupe de pression pour défendre les Canadiens francophones, Jean Dorion se souvient de ce discours et réfléchit à son impact.
Je crois qu'il prévalait au Québec avant l'arrivée du général de Gaulle, et cela depuis à peu près 200 ans, une situation d'humiliation. Les Québécois n'étaient pas le peuple le plus pauvre de la planète, loin de là, mais généralement, il y avait une très forte stratification sociale au Québec et les anglophones occupaient vraiment le haut du pavé. La France aussi avait complètement abandonné, complètement renoncé au Québec, ne s'y intéressait plus du tout. L'arrivée d'un chef d'État très prestigieux, une personnalité internationale de premier plan, qui venait bouleverser cette façon de faire, je pense que ça a été la cause de l'émotion que ça a causée dans la population du Québec.
Donc c'était aussi avoir retrouvé une certaine visibilité vis-à-vis de la France, mais aussi au niveau du monde.
Oui, effectivement, cette visite et le cri « Vive le Québec libre » a mis le Québec sur la carte du monde. On dit même que les Chinois ont créé une série d'idéogrammes pour désigner la réalité du Québec à cette époque-là.
On dit aussi que ça a donné un nouveau souffle, et sinon un nouveau souffle de la cohésion au mouvement nationaliste québécois.
Oui, le mouvement nationaliste québécois avait presque toujours été dormant dans les faits, se limitant à des revendications à l'intérieur même du cadre canadien. Dans les années 60, cependant, avec le développement de l'industrie, la hausse du niveau d'éducation, etc., un mouvement carrément indépendantiste est né, mais il était encore peu crédible, je dirais, aux yeux de la population québécoise elle-même, avant l'intervention du général de Gaulle, qui a vraiment donné une sorte de respectabilité à cette idée. Et je pense que ça a contribué à faire en sorte que des gens qui hésitaient à se lancer dans cette aventure indépendantiste, ça a contribué à les amener à se brancher finalement et à endosser cette cause.
Mais du coup, ça a eu un impact concret dans les années qui ont suivi au niveau des rapports avec la communauté anglophone?
Effectivement, le milieu anglophone détestait l'idée et craignait depuis toujours l'idée qu'on puisse remettre en question la conquête de 1759-1760. C'était un sujet tabou et il ne fallait pas revenir là-dessus parce que c'était la source des privilèges dont jouissait la population anglophone au Québec. Et avec ce cri de « Vive le Québec libre », évidemment, de Gaulle est revenu mettre tout ça en question, alors que il y avait une espèce d'acte du silence sur cette question-là au Québec. Et je pense que pour cette raison-là, il a été très, très, très détesté. La presse anglophone du monde entier, finalement, est une sorte de haut-parleur de l'opinion publique anglophone du Québec dans ce genre de questions. La presse s'est déchaînée partout contre lui.
On a vu la presse, pas seulement canadienne, anglophone, mais effectivement la presse internationale anglophone se demander pourquoi le général de Gaulle avait prononcé un tel discours. Ça a créé évidemment des tensions entre la Fédération canadienne et la France. Mais est-ce que ça a créé des tensions entre les communautés anglophones et francophones au Québec et au Canada?
Le mouvement pour l'indépendance du Québec a fait un effort considérable. Le Parti québécois a été fondé dans l'année qui a suivi ce voyage ou environ un an et demi plus tard. René Lévesque, qui était la grande vedette du Parti libéral au pouvoir au Québec, a quitté le Parti libéral pour fonder ce parti indépendantiste. Bien sûr, c'est ce qui nous a amené au référendum de 1980 et plus tard au référendum de 1995. Je pense que l'action du général de Gaulle a été extrêmement importante à cet égard. Cependant, il ne faudrait pas non plus penser que De Gaulle a créé le mouvement. Je pense qu'il lui a apporté un encouragement considérable.
Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots ce que sont ces deux référendums auxquels vous faites référence?
Le référendum 1980 est un référendum où on proposait au peuple de faire entre le Québec et le Canada un traité de souveraineté-association, c'est-à-dire deux États souverains mais associés dans une sorte de fédération politique sur certaines questions. Le oui a obtenu 40% et le non 60%, en gros. Et le référendum de 1995 était un peu plus clair, un peu plus indépendantiste, et il a obtenu 49,4% des voix, ce qui a vraiment énervé beaucoup de gens.
On voit qu'il y a une série d'événements qui sont organisés là, ces jours-ci, à Montréal, notamment pour les 50 ans de ce discours. C'est vraiment quelque chose qui évoque quelque chose dans la mémoire des jeunes comme des anciens.
Certainement les gens de ma génération qui ont connu le Québec d'avant le Vive le Québec libre et la situation humiliante où nous nous trouvions à tous égards. Hein. Par exemple, avant 1967, on peut dire que l'affichage des magasins à Montréal était essentiellement en anglais, dans une ville qui était quand même très majoritairement francophone. C'est un petit exemple que je vous donne. Il y avait aussi une répartition de la richesse extrêmement scandaleuse entre les deux communautés. Ça a changé. Les gens qui ont connu l'ancienne période sont très reconnaissants à De Gaulle. Bien que, je le répète, ce n'est pas le général De Gaulle qui a créé notre mouvement d'émancipation, c'est quand même un mouvement québécois, mais je pense que son cri a beaucoup encouragé le mouvement à se développer, a amené des gens qui étaient indécis à se brancher et aussi, bien sûr, fait connaître sur la scène internationale la cause du Québec. Pour les jeunes générations, je pense que ça les intéresse. On en parle beaucoup sur Facebook. Sur Facebook, il y a beaucoup de jeunes. Ça les intéresse, mais ça n'est pas perçu avec la même émotion, disons.
Est-ce qu'aujourd'hui, les relations, les rapports et les inégalités dont vous parliez entre les communautés anglophones et francophones, les rapports se sont apaisés? Est-ce que ces inégalités se sont aussi réduites?
Les inégalités se sont réduites manifestement, que ce soit dans les faits ou encore au niveau symbolique. Par exemple, la langue française occupe quand même beaucoup plus de place dans la vie publique au Québec que ce n'était le cas autrefois. Cependant, certaines questions plus fondamentales ne sont pas réglées. Et comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Actuellement, les Québécois ont acquis un certain nombre de choses à la suite des événements politiques des dernières années, mais ils se qu'on en veuille encore plus éventuellement. Alors, c'est ce sur quoi comptent ceux qui militent toujours pour le mouvement pour l'indépendance du Québec.
Quelques exemples, peut-être?
Dans le domaine, par exemple, de la visibilité de la langue française, qui est un symbole extrêmement important à nos yeux, l'affichage commercial à Montréal était généralement en anglais avant 1967. Il est généralement en français de nos jours parce qu'il y a une loi qui a été votée, qu'on appelle ici populairement la loi 101, pour obliger les commerces à utiliser le français. Ils peuvent utiliser l'anglais aussi s'ils le veulent en plus petit, mais le français doit être la principale langue de l'affichage commercial. Ça, c'est un très grand changement au niveau psychologique. On avait aussi autrefois la grande masse des enfants d'immigrants qui fréquentaient l'école anglaise et grossissaient constamment la minorité anglophone. La loi les oblige à fréquenter l'école française maintenant dans le cas des enfants d'immigrants. Il y a des changements de cette nature qui sont très importants. Il s'est développé aussi, bien sûr, une classe d'affaires francophones qui n'existait à peu près pas avant les années 60, qui fait qu'on n'a pas le même sentiment d'humiliation qu'on éprouvait précédemment.
Des propos recueillis par Marie Duhamel.